basée sur l'intelligence artificielle. Donc nous allons nous mettre dans, c'est-à-dire en tant qu'attaquant pour attaquer une architecture IoT qui fonctionne à l'aide des modèles d'intelligence artificielle, et nous allons essayer de voir les différentes manières d'attaquer ce genre d'architecture, la surface d'attaque, et par la suite nous proposons les différentes mesures permettant de réduire les risques et les vulnérabilités au sein de ces modèles-là. Donc, en parlant d'objets connectés, donc vu le nombre ou les données qui sont générées par ces objets-là, on parle souvent du big data. Donc, d'après les statistiques, avec la prolification des objets connectés, environ 90% des données sur Internet sont générées durant ces deux dernières années. En fait, c'est des statistiques rapportées par IBM. Et donc, on aura certainement besoin de ce qu'on appelle Big Data pour le traitement de ces données générées par ces objets-là. Ces données sont utilisées par la suite par les modèles d'intelligence artificielle, donc pour apprendre les modèles, pour entraîner les modèles par rapport à ces données-là. Et nous remarquons qu'il y a une relation bidirectionnelle entre les objets connectés et l'intelligence artificielle. Du moment où les modèles d'intelligence artificielle utilisés se basent sur les données qui peuvent être reportées par ces objets-là, donc les capteurs qui se trouvent au niveau des objets connectés, et inversement, les objets connectés ou bien les modèles d'intelligence artificielle peuvent fournir des commandes ou des décisions à ces objets, à des actionneurs qui se trouvent au niveau de l'architecture pour effectuer une tâche précise. Et donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'IoT peut être, c'est-à-dire pour la défense. Donc, comme le cas d'utilisation des IDS basés sur l'apprentissage pour se protéger contre des attaques de zero day, etc. Donc, ces modèles-là, ils sont capables de s'adapter pour pouvoir détecter ce genre d'attaque, ce qui n'est pas le cas pour les algorithmes basés sur les signatures. Mais introduire l'intelligence artificielle dans ce genre d'architecture c'est également un autre vecteur d'attaque permettant à un attaquant d'accéder à ces systèmes-là. Donc, vu la relation entre l'intelligence artificielle et les objets connectés, donc toucher à un des deux sur l'architecture permettra plutôt de perturber le fonctionnement de celle-ci. L'attaquant, il peut agir sur les objets connectés. Donc, la surface d'attaque des objets connectés a été bien traitée, étudiée dans la littérature. Donc, nous trouvons des attaques physiques qui permettent c'est-à-dire qui visent à modifier le firmware ou à chercher des clés sur ces objets-là, ou bien des attaques réseau en interceptant le trafic, rejouant le trafic, etc. Donc, les attaques qui vont le plus influencer, c'est-à-dire l'ensemble de l'architecture, c'est les attaques qui touchent à l'intégrité, c'est-à-dire en rajoutant, par exemple, dans le cas des attaques sur le réseau, en injectant des données qui permettent de falsifier ou de polluer la base d'apprentissage, et par la suite, on aura des comportements anormaux. L'attaquant peut également viser le modèle d'intelligence artificielle utilisé. Donc ici nous avons un modèle typique d'un algorithme de machine learning. Donc quand on parle du machine learning, d'un modèle, en fait on parle de plusieurs étapes. La première étape, c'est la récolte d'informations, d'utilisation des objets connectés, c'est l'utilisation des informations, des grandeurs physiques prélevées par les différents capteurs. Et par la suite, une étape très importante, c'est le nettoyage de ces données-là. Donc, il peut y avoir des erreurs, des données mal formées, etc. Et cette étape-là, elle est directement liée au résultat qui est donné par le modèle. Donc, quand on a de mauvaises données, on a forcément de mauvais résultats. Et ensuite, choisir le modèle à utiliser, des modèles, à titre d'exemple, basés sur les réseaux bayésiens, les réseaux de neurones, les arbres de décision, etc. Et cela diffère selon les besoins, les exigences en termes de performance, etc. Et par la suite, donc, nous appliquons ces algorithmes pour arriver à des prédictions ou pour effectuer des actions précises. Donc, comme vous voyez ici au niveau du schéma, en fait, il y a une architecture. Et donc, en se mettant à la place d'un attaquant qui veut attaquer un tel modèle, donc les parties les plus intéressantes, c'est plutôt les modèles de machine learning utilisés. Donc, l'attaquant, il va essayer de tirer profit de certaines faiblesses de ces modèles-là, ou bien le côté des données, donc agir sur les données, polluer la base d'apprentissage pour forcer le modèle à agir d'une manière précise ou bien voilà, de juste de perturber son fonctionnement. L'attaquant... C'est-à-dire, il peut, comme je disais, profiter des faiblesses au niveau des algorithmes, mais aussi au niveau des données. Donc ici, après, je vais citer quelques attaques pouvant être réalisées sur les modèles de machine learning. Donc, je cite ici trois attaques principales. Donc, comme je disais, il y a une relation entre les objets connectés et les modèles. Les objets connectés, donc j'ai cité quelques attaques pouvant être effectuées sur ces objets, sur cela. Et maintenant, on va focaliser un petit peu sur les attaques les plus connues sur les modèles de machine learning. Donc, nous trouvons c'est-à-dire, principalement les attaques connues, les adversarial input, c'est-à-dire des exemples contradictoires. Ce genre d'attaque, il permet, genre de, quand on a une, il est beaucoup plus utilisé dans le traitement d'images, mais pas uniquement dans cette spécialité-là. Donc, on essaye, en prenant une image, on essaye de créer, ajouter du bruit à cette image-là pour que ce ne soit pas visible à l'œil humain, mais au niveau de l'algorithme de machine learning utilisé, ce ne sera pas la même chose et donc la décision elle sera différente. Donc, nous pouvons prendre l'exemple de la voiture autonome qui arrive à reconnaître les plaques de signalisation et un attaquant il peut ajouter du bruit à un panneau de stop pour que la voiture puisse reconnaître celui-là comme un panneau de priorité ou autre. Une attaque, je vais citer une attaque qui a été effectuée en utilisant sur Gmail, en utilisant les adversarial input. Donc, il y a une attaque qui a été effectuée qui utilisait une vulnérabilité qui était au sein de, c'est-à-dire au niveau de Gmail, au niveau des filtres de spam. Donc, l'attaquant a essayé de rajouter des données au niveau de l'email, donc en rajoutant des domaines qui sont sûrs. En fait, le contenu qui a été ajouté dans l'email, il n'apparaissait pas dans le corps de l'email. À partir de cela, il arrivait à contourner ou à bypasser le filtre de spam en question. Par la suite, donc, il y a le data poisoning, donc l'injection de données. Donc, les algorithmes de machine learning les plus sensibles à ce genre d'attaque, c'est les algorithmes basés sur l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire, dans ces algorithmes-là, on se base sur les actions effectuées pour avoir une récompense et par la suite apprendre par rapport à ça. Donc, nous pouvons prendre l'exemple d'un robot qui essaie d'apprendre, par exemple, à marcher, le plus rapidement. Donc, il va effectuer c'est-à-dire un pas, il va essayer d'avancer. À partir de cela, il va voir quelle est la manière la plus adaptée pour qu'il puisse avancer rapidement. Les données qui sont récoltées ou qui sont apprises ne sont pas forcément contrôlées. Un attaquant, il peut injecter des données, par exemple au niveau, donc le robot utilise forcément des capteurs, donc falsifier les données remontées par les capteurs pour que voilà, le robot, il n'arrivera jamais à marcher. Bon, je vais passer directement à quelques recommandations et je donne la parole à Antonio pour conclure. Donc ici, quelques recommandations pour faire face à ces attaques-là. C'est limiter. Bon, je n'ai pas cité une attaque qui permet de prédire les fonctions d'apprentissage ou de machine learning qui sont utilisées. Donc limiter le nombre de tentatives effectuées sur ces modèles-là pour ne pas pouvoir identifier les fonctions utilisées, effectuer des tests d'intrusion. Après, vous trouvez le reste sur les documents fournis. Nous avons un papier, on détaille tous ces points-là. Merci.
Juste pour conclure, en fait, il y a un certain nombre de recommandations. Il faut continuer nos investigations. Il faut revisiter les cadres d'analyse de risque complètement, à mon avis. Il faut faire des recommandations sur l'éthique. Et je voudrais signaler qu'on vient de lancer une étude à l'ISO, dont je suis le rapporteur, qui s'appelle Impact of AI on Privacy. Et ça va être une initiative jointe du SC27 et du SC41, qui est la nouvelle comité de standardisation sur l'IA. Ça vient de commencer. Vous avez les termes de référence ici. Et si vous êtes intéressé par fournir des contributions, me contactez-moi. Merci à vous.
Merci Austin et Antonio. On a le temps de prendre une question dans la salle. Alors, levez bien le bras pour qu'on voit, parce que vous êtes nombreux. Donc là, au deuxième rang, à gauche.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la question de l'éthique. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux au niveau d'initiatives, je dirais, au niveau du droit, pour essayer de classifier un petit peu à quel genre de juridiction les systèmes algorithmiques sont. Est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'éthique, ça comprend cette dimension juridique?
Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions sur l'éthique. Maintenant, il est temps de se mettre d'accord et d'avoir peut-être une conclusion, un rapport commun, etc. Je dois signaler peut-être un commentaire d'un juriste avec qui j'ai discuté la semaine dernière, c'est qu'en fait, le GDPR est déjà très éthique parce qu'il explique qu'on doit se protéger sur la vie privée et les droits fondamentaux de l'être humain. Okay? Donc déjà, le GDPR montre la voie. Donc les juristes, vous nous aidez là-dessus. Ça fait partie de ma recommandation, c'est que maintenant, il faut qu'on se mette d'accord autour de la table, et pas uniquement l'Europe, je veux dire, c'est le monde entier, et qu'on regarde ces principes. Oui, tout à fait.